France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Guillaume Huguet.
Bonsoir.
Bonsoir, merci d'être avec nous pour cette case invité innovation. On termine cette année avec la jeune recherche. La jeune recherche, c'est vous, puisque vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication et que vous êtes l'auteur d'une thèse. Alors, qui tente de répondre à cette question, c'est ça, est-ce que YouTube a transformé la musique? Quel est le titre exact de cette thèse?
Alors, le titre exact, c'est « Métamorphose de la musique et capitalisme médiatique au prisme de YouTube 2005-2018 ».
Alors, je vais commencer par une question très idiote. On l'a entendu, 2005-2018, pour YouTube, c'est plus qu'une vie, c'est plusieurs vies, c'est presque quasiment une ère primaire en elle-même. Quand est-ce que vous avez commencé à vous dire que vous aviez envie de travailler sur ce métamorphose de la musique? Pourquoi vous avez ciblé YouTube spécifiquement?
Ouais, en fait, moi, j'ai commencé à travailler sur les formes de la musique en 2012 et je travaillais un peu sur le streaming vidéo. Et ça m'intéressait particulièrement de savoir ce que devenait la musique dans des sites qui mettait en avant la vidéo, le rapport à l'écoute, tout ça. Et c'est un peu le moment aussi où il y avait beaucoup de débats sur les modèles éditoriaux et économiques du streaming. Et il y avait une foule de sites qui étaient difficiles de réunir. Et il y avait en commun ce petit objet, le player. Donc je suivais un peu le player, je me disais, mais alors, on n'arrive pas trop à savoir, à délimiter les catégories entre les sites. Je vais me baser sur cette forme. Et alors, le player YouTube, il est devenu iconique. Et en 2013, donc c'est-à-dire un an après que j'ai commencé un peu ce travail de veille, dans les études d'usage en France, notamment les études d'usage menées par la Hadopi, YouTube devenait la première destination musicale pour l'écoute en France. Et je me suis donc à la fois, c'était les deux raisons, c'est-à-dire que va devenir la musique sur un site qui n'a pas l'air fait pour ça, qui a l'air généraliste, qui a l'air de mettre en avant la vidéo. Et la deuxième raison, c'est quand une entreprise comme ça devient hégémonique, qui a l'air d'être le premier site pour consulter de la musique, pour l'écouter, c'est forcément intéressant de se demander ce qui se passe sur ce site en particulier.
Mais alors justement, c'est très intéressant parce qu'évidemment à l'époque, les grands mastodontes du streaming musical n'existent pas. Enfin, en tout cas, s'ils existent, ils sont absolument pas majoritaires, Spotify. Qu'en est-il aujourd'hui de la place de YouTube dans l'écoute de la musique en 2018?
Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des pratiques, c'est toujours un leader. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette ambiguïté qui est maintenue avec YouTube sur est-ce qu'on le fait rentrer dans les analyses de marché qui concernent le streaming musical en particulier, ou est-ce qu'avec son statut plus généraliste, en fait, on le met à part. Et donc, dans les études socio-économiques, il y a toujours, en fait, un débat sur, on va dire, le cadre du marché. Qu'est-ce qu'on définit comme étant le marché? Donc, j'ai travaillé en partie dans ma thèse là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on présente comme étant le marché de la musique en ligne. Avant mon travail, avant l'émergence du streaming, on parlait beaucoup d'Apple et de l'achat de singles, et on disait c'est ça le nouveau modèle. Ensuite, on a parlé du streaming. Aujourd'hui, on parle de différentes applications. Et les contours de ce marché évoluent en même temps que les stratégies des acteurs. Donc YouTube est certes un objet dominant pour l'écoute, les pratiques d'écoute, la présence de catalogues, mais le marché est jamais fixé. D'ailleurs, les économistes et les chercheurs, on travaille à créer les contours de ce marché nous-mêmes.
Bien sûr, parce qu'évidemment, ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on vous reçoit ce soir, et toujours avec cette question dans Soft Power, c'est que la recherche, on le voit bien, face à l'évolution extraordinairement foudroyante de tous ces acteurs, sa rapidité et leur porosité et leur flou a du mal, en tout cas, a toujours des difficultés, mais c'est ça qui est très beau, construit les outils pour l'appréhender. D'ailleurs, vous mettez au centre de votre thèse cette notion de force et de flou pour essayer justement de définir cette position de YouTube dans son discours même sur son rapport à la musique. Est-ce qu'il est ou pas un acteur musical, un acteur du marché de la musique?
Oui, en fait, moi, ce qui m'a intéressé, c'est vrai que c'est que la place de la musique sur YouTube, elle est à la fois dominante dans des études d'usage, mais... Et donc on a fini par la reconnaître, mais elle n'est pas forcément affichée dans les pages depuis le départ. Et en fait, j'ai fini par le préciser en disant qu'elle avait eu longtemps un statut incident, c'est-à-dire que la musique était là, le son était là, mais on ne pouvait pas garantir que c'était un site musical en particulier. J'ai essayé d'analyser tous les indices, à la fois dans les vidéos, dans la manière dont elles ont pu être éditorialisées sur le site, dans le discours de YouTube sur sa stratégie à destination des internautes, etc. Le fait que la musique ait un statut comme ça, plus ou moins accessoire, plus ou moins secondaire. Et puis, à mesure qu'on se rapprochait de la période un peu plus récente, et notamment à partir de 2015, un statut plus opportun de la musique, c'est-à-dire la musique comme réelle opportunité à part entière pour YouTube. Et à mesure aussi que le marché du streaming se consolidait, cette dimension, voilà, opportuniste, très très tactique. Hein, on parle avec certains collègues, on parle de stratégie de la tactique, où YouTube voit qu'en fait, pour son business model émergent, c'est-à-dire la publicité, les données, en fait, la musique va être un domaine, un terrain d'expérimentation particulièrement intéressant.
Mais parce que c'est ça, parce que pendant longtemps, ça a été, et notamment au regard des nombreuses questions posées par le droit d'auteur, et ce pendant plusieurs années, parce qu'aujourd'hui, YouTube a passé des accords, et d'ailleurs, vous le rappelez, je crois, dans votre thèse, de manière beaucoup plus, disons, évidente et fluide, et presque un peu par-dessus la jambe avant les majors, avec les majors, bien avant même qu'elles concluent ce type d'accord avec des plateformes comme Spotify, par exemple. YouTube était dans cette espèce d'ambiguïté. On n'est qu'un outil, on est neutre, en fait. On n'est qu'une plateforme technique. On n'est pas un acteur majeur, on n'a pas de stratégie éditoriale. En réalité, ils n'ont cessé d'osciller entre les deux, dans le discours au moins.
Oui, complètement. En fait, ce phénomène, je l'ai abordé d'un point de vue lexical aussi, c'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup parlé, par exemple, de plateforme, qui est un mot très ambigu, parce que tantôt il désigne la technique, tantôt il désigne un modèle économique, et on oublie un petit peu la manière dont ça se construit d'un point de vue des formes, du design, du média, les relations que ça organise concrètement, etc. Mais surtout, en fait, le mot qu'on utilise le plus pour parler de YouTube et que YouTube utilise à propos de lui-même depuis longtemps, c'est le mot de service. Et dans le mot de service, il y a à la fois la survalorisation d'une médiation, c'est-à-dire on est capable de fournir quelque chose de précieux, et en même temps, il y a cette idée très neutralisante, oui, très très technique.
On ne fait que fournir un service.
Et on ne fait que ça, voilà. Ouais. Et en fait, c'est le mot qui est utilisé même dans l'histoire américaine pour les infrastructures téléphoniques, radiophoniques, la télévision depuis des années. Et ce mot anglo-saxon, il est passé en français avec cette espèce d'ambiguïté entre l'infrastructure et le média, en fait.
Vous parlez justement pour essayer de comprendre ce qui s'est passé avec YouTube. Si d'ailleurs, 8 ans, 13 ans plus tard, je vous pose la question, est-ce que YouTube a vraiment transformé la musique, vous me répondez quoi?
Alors moi, en fait, une partie de mon travail, ça a été de montrer qu'en fait, on ne pouvait pas répondre de manière univoque à cette question, mais surtout qu'il fallait être beaucoup plus précis, parce qu'il y avait extrêmement de niveaux auxquels ça se jouait. Donc moi, ce que j'ai essayé de mettre en avant, c'est que cette question elle-même, elle participe du déterminisme technique, c'est-à-dire qu'en fait, on est rentré dans ce monde de l'innovation, dans une idée qu'en fait, il fallait qu'il y ait des acteurs, des entreprises ou des technologies qui changent la culture. Et pour pouvoir dire ça, ou pouvoir se poser ce genre de questions, ça veut dire qu'on pense que c'est plus les personnes qui changent la culture, c'est plus des habitudes culturelles, des savoirs, mais c'est des objets. Donc déjà, ou c'est des forces économiques. Et déjà, là-dedans, il y a quelque chose d'un peu curieux. Après, si on y regarde un peu plus concrètement, et moi, j'ai favorisé le temps long, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de réactivation de modèles industriels qui étaient les modèles de l'économie, d'une économie de l'innovation qu'on a un peu oubliée, qui est celle du début du 19e siècle, où des gens comme, dans la musique enregistrée notamment, des gens comme Edison, utiliser des idées scientifiques pour en faire des objets techniques, et à partir de ces objets techniques, pour les vendre, en fait, développer des marchés médiatiques, se demander à partir de cet appareil, le phonographe, le transistor, comment
qu'est-ce
on va vendre ça
dessus
au public. Et donc on fait la radio et on fait le phonographe musical. Et YouTube, dans ce sens, c'est des serveurs d'émergement, et on se demande ce qu'on va en faire. Et donc il y a une grosse ressemblance avec des choses qui sont assez anciennes. De la même manière avec l'industrie musicale, le droit d'auteur. Bien sûr, il y a des changements, il y a un modèle assez particulier de YouTube, mais ça réactive, par exemple, l'industrie de la reprise, qui a précédé l'industrie de la musique telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on encourageait, en fait, les droits de redevance pour les auteurs, plutôt que la vente directe de support. Et donc, en ça, il y a beaucoup de choses qu'on identifie comme nouvelles, mais tout dépend du point de référence qu'on prend. Si c'est par rapport à 5 ans, il y a 10 ans, oui. Si on est dans l'histoire longue du capitalisme, c'est plus nuancé.
Et vous parlez d'une micro-politique des formats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, et ça, je crois que c'est ce qui est très important dans votre thèse, on a ces mastodons, on a des espèces d'études macro, et pourtant, vous dites que les changements et les choses déterminantes, elles se jouent à petite échelle, en fait, même sur YouTube.
Oui, en fait, ce qui me paraît très important, alors, quand je dis micro-politique des formats, déjà, il faut prendre la notion de format, elle est à la fois, c'est-à-dire qu'en fait, on néglige souvent, quand on parle d'économie de l'innovation, on a un biais technique et on a un biais économique. Et donc, en fait, on ne pense pas au travail de conception, de design, d'imagination qui se joue à la fois dans les formats techniques, dans les formats esthétiques et dans les formats éditoriaux. Donc, tout ça, c'est des ressources d'innovation, et c'est là que le sens de ces objets se construit, et c'est ce qui va leur permettre de devenir éventuellement puissants, influents. Et ensuite, pourquoi micropolitique? Parce que c'est vrai qu'on va avoir des discours de changement de la part de YouTube un peu radicaux, etc. Et en fait, par exemple, on va dire, on a un nouveau modèle du droit d'auteur qui va mettre tout le monde d'accord, et ensuite il faut aller regarder dans le détail des algorithmes comment finalement, par exemple, l'algorithme de droit d'auteur favorise les maisons de disques en particulier.
Content ID, par exemple, pour ne citer que lui.
Voilà, Content ID qui est un exemple de ce phénomène. Ouais.
Et par ailleurs, on peut le rappeler quand même, il y a des tendances non prévues et effectivement qui continuent d'exister sur YouTube. Il y a des petits acteurs ou des nouvelles sensibilités qui continuent d'exister. Il y a une économie de la reprise qui est très forte et il y a ces explosions de ce qu'on appelle les YouTubeurs, de l'ASMR par exemple.
Oui, en fait, ce qui est intéressant avec YouTube par rapport à d'autres sites dominants dans l'écoute de musique aujourd'hui, c'est qu'il a su profiter de la créativité des internautes. Et même si aujourd'hui, aller sur YouTube, c'est d'abord avoir des recommandations qui sont très proches de ce qu'on va pouvoir trouver à la radio par ailleurs, avec des biais de confirmation, etc.
En fait, très mainstream.
Voilà, avec le principe d'hébergement qu'il y a derrière, c'est vrai que si on est dans une démarche un peu plus active, on pourra forcément y trouver des cultures sensorielles ou musicales. Par exemple, le fait d'écouter ces petits sons qui vous titillent, qui vous titillent le cerveau, voilà, l'ASMR, qui sont pas des choses spécifiques à YouTube, en fait, qui ont été construites dans des forums, dans des blogs par ailleurs, mais qui trouvent sur YouTube un bon endroit pour de l'hébergement gratuit et puis pour s'exprimer.
Et donc, YouTube va continuer à transformer la musique et la musique va continuer à survivre à YouTube. Vous le dites, c'est effectivement un opportunisme tactique. Évidemment, on suivra la manière dont YouTube continue à construire et à déconstruire au fil des mois et des années son discours sur la musique. Merci beaucoup à vous, Guillaume Meugier. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication